Bonjour à tous. Alors, Lydia a très bien introduit la problématique des rapports entre la croyance en l'autorité de la Bible et la connaissance des données scientifiques actuelles. Et je voudrais simplement ce matin faire le point devant vous, pour vous, sur les données initiales de la Genèse, le premier chapitre et le début du second chapitre de la Genèse. Vous savez que c'est une source de crispation pour beaucoup de croyants qui sont intéressés aux données scientifiques, que de lire la Genèse de manière contraignante. Et inversement, beaucoup cherchent à lire le début de la Genèse à la lumière des données scientifiques. Quand j'étais moi-même étudiant en mathématiques, j'étais très frustré, en commençant à m'intéresser à la théologie, de voir que les exégètes se disputaient encore sur des textes qui datent d'il y a plusieurs milliers d'années, dont ils disposent depuis longtemps avec des outils grammaticaux. Je me dis, comment se fait-il qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'interprétation de ces textes? Je vais commencer donc mon propos par une simple question, une brève esquisse méthodologique. Est-il possible d'avoir une approche scientifique, entre guillemets, des débuts de la Genèse? Nous allons en discuter. Puis, je vous parlerai des caractéristiques formelles du prologue. On parle de prologue pour le premier chapitre de la Genèse, auquel il faut rajouter les trois premiers versets du chapitre 2, parce que l'ensemble se termine en 2-3. Puis, nous parlerons des cosmogonies de l'Orient ancien, les récits de création, si vous voulez, de l'Orient ancien. Nous pourrons alors discuter de l'interprétation des jours du premier chapitre de la Genèse. Et enfin, je dirai quand même un mot de la création de l'homme, parce que je pense que c'est un sujet qui est particulièrement important au regard de la théorie de l'évolution. Est-il donc possible d'avoir une approche scientifique, toujours entre guillemets, du début de la Genèse? Alors certes, le texte biblique ne peut pas faire l'objet d'une série d'expérimentations, comme on peut le proposer en laboratoire. Il ne peut pas faire l'objet de raisonnements à partir d'une théorie axiomatique comme en mathématiques. Et l'exégèse ne sera jamais une science dure, comme les mathématiques, la biologie ou la physique. Cependant, les exégètes disposent d'outils pour traiter un texte aussi ancien que le début de la Genèse, comme ils disposent d'outils pour étudier n'importe quel texte antique. Je vais donc vous proposer une méthodologie extrêmement simple, mais qui, si elle était suivie, éviterait bien des erreurs. La première étape consiste à faire abstraction d'un certain nombre de choses. Vous savez que le béaba d'une approche scientifique, c'est de ne pas projeter sur l'objet qu'on étudie ses propres conceptions, ses propres idées, ses propres attentes, autant que faire se peut. De la même manière, pour le texte biblique, si l'on veut être parfaitement honnête intellectuellement en l'abordant, il convient de faire abstraction des habitudes de lecture. Ça, c'est très difficile, parce qu'on lit en particulier des chapitres comme celui qui nous intéresse depuis notre enfance, si on est croyant, ou ce sont des textes sur lesquels on tombe immédiatement en ouvrant sa Bible, donc on les connaît très bien. On a des habitudes de lecture, et il serait bon d'en faire abstraction, si l'on veut vraiment étudier ce texte pour lui-même. De la même manière, idéalement, il faudrait faire abstraction des habitudes de traduction. Des mots comme « espèce », qui se retrouvent plusieurs fois dans le premier chapitre de la Genèse, peuvent prêter à confusion si on y importe une conception moderne de la notion d'espèce. Enfin, il convient de ne pas projeter, en tout cas pas de suite, des attentes de lecteurs modernes, des lecteurs modernes que nous sommes. Et de même, il faudrait écarter, au moins dans un premier temps, notre univers conceptuel, notre façon de concevoir ce qu'on attendrait d'un récit de création. Il est tout à fait possible que des récits de création antiques n'aient pas du tout les mêmes préoccupations que nous. Il est possible également que ces textes rejoignent nos préoccupations modernes. On n'écarte pas non plus cette hypothèse, mais il convient de ne pas avoir de position préalable. La deuxième étape, une fois qu'on s'est débarrassé des présupposés possibles, consiste à étudier le texte pour lui-même, étudier ses caractéristiques formelles, les caractéristiques de forme, celles qui, pour l'instant, ne requièrent pas d'avoir une interprétation particulière. Il s'agit par exemple d'étudier les caractéristiques littéraires. Le style, s'agit-il de poésie, de prose, autre chose? La structure du texte. Le genre littéraire, S'agit-il d'un psaume, d'un récit historique, d'une parabole, etc. Et enfin, on peut discuter certains problèmes de traduction en s'attachant à des questions philologiques. C'est la question de l'étude des langues anciennes et du texte tel qu'il est lui-même. Une fois qu'on a franchi cette étape, que nous avons donc déterminé le genre littéraire, le type de texte dont il s'agit, nous pouvons comparer ces textes à d'autres écrits du même genre littéraire, et en particulier de l'Orient ancien. Cela aura plusieurs profits. D'abord, ça nous permettra de nous plonger dans un univers conceptuel qui était l'environnement intellectuel des gens qui ont écrit le début de la Genèse. Ensuite, ça nous permettra de repérer des similitudes, des différences, et il faudra se poser la question, avec beaucoup de prudence, du rapport entre les textes antiques non bibliques et du début de la Genèse. Commençons donc par étudier les caractéristiques formelles du prologue, le texte tel qu'il se présente lui-même. La première des caractéristiques littéraires que l'on a notées, c'est le style. Il ne s'agit ni tout à fait de prose, pure narration, ni tout à fait de pure poésie. On a là un genre mixte qui s'apparente à de la prose poétique, comme on en trouve chez certains auteurs, Baudelaire, etc. Cela se voit à plusieurs traits. D'abord, la présence de parallélisme. On pourrait structurer, présenter notre texte de façon quasi poétique, comme on le fait pour les poésies modernes, en certains endroits au moins du texte. Par exemple, premier jour, Dieu dit qu'il y ait la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il appela nuit. On a comme ça des lignes qui se suivent deux, par endroit, et on a des parallélismes assez rigoureux entre les lignes. C'est assez variable, hein. C'est pas tout à fait la rigueur qu'on rencontre dans certains psaumes, mais en même temps, il est parfaitement clair qu'on n'est pas là dans de la narration habituelle. On a également beaucoup de répétitions, vous connaissez très bien cela, on rencontre plusieurs fois la formule « Dieu vit que cela était bon ». On a la présence d'un refrain « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Et on a des jeux de mots qui se voient particulièrement dans le texte original en hébreu. Par exemple, les mots « lumière », premier jour, « luminaire », pour viser le soleil, les astres en fait, et le mot « illuminé », pour éclairer la terre. Ça, c'est la même racine. C'est vraiment des combinaisons à partir des mêmes sonorités en hébreu. On a d'autres jeux de sonorités dans le texte, ce sont juste quelques exemples. Tout cela nous indique très fortement, au regard de ce qu'on sait sur le reste de l'écriture, qu'on a là un texte qui n'est pas de la pure prose, qui n'est pas de la pure narration. Il faudra absolument en tenir compte. Quelques indices supplémentaires. On rencontre des procédés, presque des jeux numériques dans ce texte-là. D'abord, un certain nombre de formules se retrouvent en nombre d'occurrences qui semblent parfaitement choisies. Et manifestement, le texte a été composé de manière très savante, très artistique. Certaines formules se retrouvent exactement 10 fois, comme le verbe « faire », la formule « et Dieu dit », donc 3 fois concerne l'homme et 7 fois concerne les autres créatures. La formule selon leur sorte, on traduit souvent selon leur espèce, j'ai préféré traduire selon leur sorte pour ne pas préjuger de l'interprétation. On rencontre 7 fois la formule « et il fut », 7 fois la formule « Dieu vit que cela a été bon », et enfin 3 fois « que soit », c'est-à-dire « que la lumière soit » par exemple, « Dieu bénit », et puis on a 3 versets, 3 passages qui utilisent le verbe « créer », et la 3e fois, le verbe est utilisé 3 fois. Tout ça nous indique une construction assez élaborée. L'auteur a manifestement compté les occurrences d'un certain nombre de formules pour obtenir des nombres ronds comme 10, 7, 3. Vous savez en particulier que le chiffre 7 a une symbolique importante dans l'Ancien Testament. Ça ne s'arrête pas là. Les 5 premières paroles de Dieu, puisque je dis qu'il y en avait 10, 10 fois, et Dieu dit, sont réparties sur les jours 1 à 4. Elles contiennent exactement 207 mots. En hébreu. Et les 5 dernières paroles, pour les jours 5 et 6, contiennent exactement 206 mots. Donc il y a un équilibre dans la répartition du texte, la répartition de la matière elle-même, qui semble voulu. Enfin, on a repéré, j'espère que vous ne détestez pas tous ces mathématiques, je ne pense pas, on a repéré beaucoup de multiples de 7 dans les nombres de mots qui sont utilisés. Le texte lui-même compte 7 fois 67 mots. Et à l'intérieur, on a 7 fois 3 mots pour les tout premiers versets qui constituent un prologue du prologue, un prélude. Et dans ce prélude, on a également une division entre d'abord 7 mots, puis 14 mots, donc 7 fois 2. Ensuite, on a, pour les jours qui se suivent, 7 fois 59 mots. Et puis la conclusion, c'est 7 fois 5 mots. Alors tout cela nous indique une construction savante, littéraire élaborée. Et je vous ai présenté les choses les plus probantes, il y a d'autres indices qui ont été repérés. Et vous voyez que ce texte-là n'a pas été rédigé n'importe comment. Tout nous indique qu'il s'agit de prose poétique avec une construction littéraire savante. À partir de là, n'importe quel bibliste en tirera des conséquences herméneutiques, c'est-à-dire des conséquences dans la manière dont on va aborder le texte pour l'interpréter. Je vais vous prendre un exemple pour vous montrer qu'en poésie, je pense que vous serez tous d'accord, on ne peut pas forcément interpréter littéralement les choses. C'est la première conséquence. Il ne s'agit pas de dire que forcément le texte ne sera pas à prendre littéralement, mais la poésie hébraïque se caractérise non seulement par l'emploi d'un style élaboré, de parallélisme, répétition, jeu de mots, mais également par l'usage, comme n'importe quelle œuvre poétique, de figures de style, de langage imagé, figuratif, de métaphores. Pour vous prendre un exemple de ce que l'on peut voir en poésie hébraïque, je vais lire juste quelques versets de 2 Samuel chapitre 22. C'est un psaume de David qu'on retrouve dans le psautier, psaume 18, et qui est prononcé, je cite, « Le jour où le Seigneur l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, le roi en titre, qui le persécutait. » Alors, David explique que le Seigneur est son rocher, qu'il se fonde sur lui, et au verset 7, il dit « Dans ma détresse, j'invoque le Seigneur, j'invoque mon Dieu. De son temple, il m'entend, mes appels au secours parviennent à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondations du ciel furent agitées, elles s'ébranlèrent, parce qu'il s'était fâché. De la fumée montait de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche, des braises enflammées en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit avec une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un kéroub et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une hutte autour de lui, tout autour de lui, un amas d'eau de sombres nuages. Dans la clarté qui le précédait, s'allumaient des braises. Le Seigneur tonna depuis le ciel, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et il les dispersa, un éclair, et il les frappa de panique. Le lit de la mer apparut, les fondations du monde furent mises à découvert, quand le Seigneur les rabroua par son souffle, par le vent de ses narines. » Voilà un exemple assez typique, et même vraiment typique, de ce qui est possible en poésie biblique. Les poètes, comme en n'importe quel style poétique de tous les âges, se permettent des licences poétiques. Ils ont une certaine audace dans la façon de présenter les choses, de telle sorte qu'ils n'attendent pas du tout du lecteur qu'ils comprennent qu'il y a effectivement eu des tremblements de terre, le ciel qui s'est ouvert, le lit de la mer qui s'est ouvert, quand David a été délivré de Saül. Rien dans le texte n'indique ce genre de phénomène cosmique. Tout cela pour dire qu'en bon fonctionnement exégétique, face à un texte qui est fait de prose poétique, on attend au moins une dose de langage figuratif, de métaphore, etc. On a donc une forte présomption vers ce genre d'interprétation. La construction élaborée du texte ne s'arrête pas là. On a également repéré une structure admirable dans ce premier chapitre de la Genèse. On a premièrement repéré que les jours se correspondent deux par deux. Ainsi, le jour numéro 1 correspond au jour numéro 4, comme cela se voit par des indices formels. Il ne s'agit pas d'interprétation. On repère ainsi que dans le jour 1, qui est à gauche sur le tableau, le sujet essentiel, c'est la lumière. J'ai indiqué en gras. et puis la séparation de la lumière des ténèbres. Cela donne lieu à l'appellation par le Seigneur du jour et de la nuit. Dans le jour numéro 4, on trouve comme en réponse la création des luminaires. Et en hébreu, c'est un mot de la même racine, c'est un écho très clair. Pour séparer le jour et la nuit. On trouve ce mot plusieurs fois et on trouve également que leur fonction est d'illuminer la terre. Encore une fois, il s'agit, je l'avais déjà dit, de la même racine hébraïque. Ces luminaires sont accordés en fonction du jour et de la nuit, le grand luminaire pour dominer le jour, le petit luminaire pour dominer la nuit. Et ensemble, ils sont là pour illuminer la terre, dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. J'ai mis en italique et en gras la formule qui reprend très clairement une formule qu'on avait dans le premier jour. Et ces formules-là ne se retrouvent pas du tout avec la même densité, la même fréquence dans les autres jours du récit de la création. Il est donc parfaitement clair que l'auteur de ce chapitre voulait établir une correspondance entre le jour 1 et le jour 4. De la même manière, le jour 2 correspond au jour 5. Que se passe-t-il dans le jour 2 ? Dieu dit qu'il y a une étendue au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit l'étendue qui sépare les eaux qui sont au-dessous de l'étendue et celles qui sont au-dessus de l'étendue. Cette étendue est appelée par le Seigneur les cieux. On retrouve la formule « l'étendue des cieux » dans le jour 5. Et cette disposition que le Seigneur a permise, qui fait qu'il y a une séparation, et qu'il y a les eaux en bas qui plus tard formeront la mer, dégage des espaces pour les occupants que seront les poissons dans les eaux terrestres, et les oiseaux dans l'air qui est dégagé ainsi. Et ces oiseaux se définissent face à l'étendue des cieux. Ils volent face à l'étendue des cieux. Enfin, le jour 3 et le jour 6, le jour 6 est particulièrement long dans son récit, dans son texte, se correspondent également très clairement. La première grande œuvre du jour 3, c'est l'émergence de la terre, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec, la terre sèche, apparaisse. Cela fut ainsi, Dieu appela le sec terre, il appela la main des eaux mer. À partir de maintenant, on a une terre sèche. Et cette terre sèche produit, la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, de la végétation. Et le texte répète, la terre produisit de la verdure et puis toutes sortes de végétation. C'est à partir de là que le jour 6 est construit. Dieu répète que la terre produise, cette fois-ci, des animaux. On a maintenant des occupants, des habitants de cette terre sèche, des habitants animés. Il s'agit plus de végétation, mais d'œuvres mobiles, si vous voulez. Tout le raisonnement du jour 6 est fait à partir de la terre. J'ai mis en gras les occurrences du mot terre. J'espère que ça se voit à peu près sur cet écran. L'homme également est créé pour occuper cette terre. Et enfin, on a un écho très fort de la présence de végétation créée au jour 3 qui va servir maintenant de nourriture pour l'homme et également pour les animaux. Donc on a des échos très très clairs et formels. Il ne s'agit pas d'interprétation, on est simplement là au stade du constat de similarité, d'écho formel, matériel, de phrases, de mots, de syntagmes. Il y a également la question de la répartition, de la création selon leur sorte, qu'on traduit habituellement selon leur espèce. Toutes ces formules se retrouvent, ces questions de végétation, de répartition selon leur sorte, se retrouvent uniquement dans les jours 3 et 6. Donc, encore une fois, on a un amas de données qui fait correspondre ces deux jours. Au final, on arrive à une structuration du prologue de la Genèse, que je vous présente ici. Tout d'abord, une formule qui sert en quelque sorte de titre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis on décrit l'état initial des cieux et de la terre. Puis les six jours répartis deux par deux, jour 1, jour 4, jour 2, jour 5, jour 3, jour 6, de manière parallèle, selon une structure qui en fait est très très connue, très fréquente dans l'Ancien Testament. C'est une façon de présenter les choses. Une formule enfin qui semble faire conclusion à cette œuvre de création, de formation, et les cieux et la terre furent achevés, ainsi que toute leur armée. Alors on a remarqué que la répartition en, si vous voulez, deux colonnes, jour 1, 2, 3, jour 4, 5, 6, semble répondre à une formule bipartite. Les cieux et la terre furent achevés, et ça, cela pourrait correspondre à la question des espaces d'habitation, à gauche, à votre gauche, et toute leur armée, c'est-à-dire l'armée des cieux, l'armée de la terre, autrement dit les occupants, les habitants, qui vont emplir ces espaces dans les jours 4, 5, 6. Et enfin, on trouve le septième jour, qui lui est tout à fait à part, puisque c'est un jour où Dieu cesse de travailler, il chôme, et on a tout à la fin un écho du verbe « créer », à dernière ligne, car il y a chômé, au septième jour, de tout l'ouvrage qu'il avait créé pour faire. Ce texte-là est donc remarquablement bien structuré. On peut même aller plus loin. Un dernier point là-dessus. On a remarqué que le quatrième jour occupe une place centrale. Ce qui veut dire que non seulement on a un parallélisme entre les jours 1, 2, 3 et 4, 5, 6, mais qu'à cela se superpose une autre manière de répartir les choses. On a déjà eu un aperçu tout à l'heure quand j'avais dit que dans les 10 paroles de Dieu, il y en avait 5 pour les jours 1 à 4 et 5 pour les jours 5 et 6, avec à peu près la même quantité de mots, 206, 207. Ce quatrième jour est central dans la série des 7 jours. En effet, il répond au jour 1, puisque la création des luminaires répond à la création de la lumière, et il répond au jour 7, puisque les luminaires sont là pour guider, disons, introduire les fêtes, ce qui correspond notamment au sabbat, une des principales fêtes juives. Ce quatrième jour est également central dans la série des 6. Alors, je l'ai déjà dit, il y a un équilibre dans le nombre des mots qui ont été utilisés, qui peut difficilement être fortuit. Il y a un équilibre dans la répartition des paroles de Dieu, 5 paroles, 5 paroles. Et puis, les jours 4 et 6 finissent tous les deux par une sorte de domination. En fait, c'est le même mot, si je ne me trompe pas. Les astres vont dominer sur le jour et la nuit, et l'homme va dominer sur la terre, en fait, les animaux. On a ainsi une sorte de structure encore superposée qui montre que l'auteur a dû calculer de manière très, très serrée le nombre de mots, le nombre d'occurrences des formules, la répartition des textes entre les différents jours, les correspondances entre les différents jours. C'est un véritable chef-d'œuvre dont on trouve peu d'exemples de la même qualité dans l'Orient ancien. Alors, je vais passer rapidement, mais je voudrais mentionner quand même quelques problèmes de traduction qui peuvent préoccuper certains, donc je pense qu'il faut en parler. Donc, on est toujours dans l'étude du texte pour lui-même, avant de le comparer. D'abord, le verbe « créer » qui est utilisé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est « bara » en hébreu. Bon. S'agit-il d'une création ex nihilo ? C'est une question qui préoccupe beaucoup de gens. Alors, on a remarqué depuis longtemps que ce verbe est utilisé en plus du verbe habituel pour dire « faire ». Et il intervient à trois endroits stratégiques. Premier verset, Dieu créa le ciel et la terre, la création de l'homme, et puis la sorte de conclusion au chapitre 2. On a remarqué également que Dieu est toujours le sujet de ce verbe dans l'Ancien Testament, ce qui, alors que le verbe « faire », l'autre verbe plus banal, est utilisé constamment pour l'homme. Et enfin, on a remarqué qu'il n'est jamais précisé la matière à partir de laquelle Dieu crée quelque chose. Et cela a incité beaucoup de personnes à penser que le verbe porte en lui-même la signification d'une création ex nihilo. Cependant, on a noté aussi que le verbe est utilisé en parallèle avec le verbe banal, si je puis m'exprimer ainsi, qui signifie faire, le verbe asa. Par exemple, à la fin, juste dans le premier verset de la suite du texte, juste après le prologue. C'est tout à fait parallèle. On a remarqué aussi que les traducteurs grecs, autrement dit des juifs, qui lisaient le texte peut-être au 3e siècle avant notre ère, 3e, 2e siècle avant notre ère, et dans la suite, étaient hésitants. Ceux qui ont traduit l'Ancien Testament hébreu en grec, on appelle la traduction de la Septante, ont utilisé le même verbe grec pour le verbe bara, un peu exceptionnel, et le verbe assa, le verbe banal, pour signifier faire. En même temps, une traduction littérale du 1er siècle, la traduction de Aquila, utilisait un mot très particulier pour traduire bara. Un mot qui dénotait en tout cas apparemment dans le Nouveau Testament, une création probablement à partir de rien, le verbe ktizo. Donc on a une certaine hésitation du côté des traducteurs grecs. On n'a pas unanimité pour dire qu'il s'agit d'un mode de création particulier, ex nihilo. Enfin, si on examine l'ensemble des occurrences, tous les endroits où le mot apparaît, où ce verbe apparaît, il est très difficile de conclure que le mot porte en lui-même la notion de création ex nihilo. Ainsi, on utilise ce verbe quand on dit que Dieu crée des merveilles, de la fumée et une nuée dans Ésaïe, les ténèbres et même le malheur. Quand il crée Jacob, Israël, quand David lui demande de créer en lui un cœur pur, et puis aussi pour le nord et le sud. On dit que Dieu a créé le nord et le sud. S'il remplaçait le verbe créer, ou plutôt s'il en rajoutait créer ex nihilo, à chaque fois on tomberait quand même sur des traductions peu vraisemblables. Enfin, on pourrait le discuter, le tout premier verset, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, sert vraisemblablement de titre qui annonce tout ce qui va se passer dans les 6 jours de création. Et il y a même un écho de cela quand on dit que les cieux et la terre furent achevés. Il est assez probable que cette formule introductive, Dieu créa le ciel et la terre, est en fait un titre qui résume, un peu comme nos sous-titres, les sous-titres que nous avons en gras dans nos Bibles, tout ce qui va suivre. Auquel cas, l'œuvre de création désignée par le verbe bara serait en fait une description de tout ce qui est fait par le Seigneur pendant les 6 premiers jours. Il forme, il agence, il fabrique les cieux et la terre. Il y a donc à présent une sorte de consensus chez les interprètes qualifiés, en tout cas, chez les exégètes les plus sérieux et les philologues, pour dire que le verbe bara, créer, ne signifie pas nécessairement, n'implique pas en lui-même, à lui seul, la notion de création ex nihilo. Cependant, vous remarquerez que le verbe créer en français, en anglais, dans les langues actuelles, est aussi très ambigu. Je peux aussi bien dire que Dieu a créé à partir de rien, que dire que j'ai créé une entreprise. En général, ce n'est pas ex nihilo. J'ai créé des ennuis à une personne, etc. Il y a donc probablement une certaine ambiguïté, et il n'est pas exclu qu'on puisse comprendre le premier verset, étant donné son caractère initial, comme visant une création ex nihilo. Mais on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer de manière contraignante, et je ne pense pas que ce texte puisse être utilisé pour dire « voilà le fondement biblique de la création ex nihilo ». Il y a d'autres passages pour cela. Rapidement, un autre problème, la question du firmament, de l'étendue céleste, de la voûte céleste, selon les traductions. Rakia. Bon. Alors, il y a une variété dans les traductions modernes, et ça n'est pas pour rien, on hésite. Toute la question est de savoir s'il s'agit de l'étendue céleste dans un sens assez vague. Donc, on pourrait penser à l'atmosphère, éventuellement l'espace interstellaire. Bon. Ou alors, s'il s'agit de, comme le suggèrent les traductions anciennes, en grec et en latin, d'un firmament, donc une sorte de support solide, une sorte de dôme ou de voûte solide qui serait au-dessus de l'atmosphère, disons. Alors, c'est assez délicat. L'étymologie n'est pas extrêmement claire. Vous savez que quand on cherche à trouver l'étymologie d'un mot en hébreu, on regarde les usages de tous les mots de la même racine, les verbes, et puis en désespoir de cause, on regarde ce qui se passe dans les langues voisines, les autres langues sémitiques. Finalement, on arrive à deux notions qui pourraient correspondre, celle de déployer d'où la notion d'étendue, et celle de tamponner ou de marteler, un peu comme quand on martèle une plaque en fer, si vous voulez, ou dans une plaque de métal. Cette seconde idée semble prédominante, en fait. On n'a pas beaucoup d'usage du mot rakia. Il se trouve dans quelques passages, mais peu sont éclairants sur sa signification propre. Dans Ézéchiel 1, repris au chapitre 10, dans la grande vision qu'Ézéchiel a du trône de Dieu, du char de Dieu, en fait, on dit qu'au-dessus de la tête des animaux, des êtres vivants, il y avait la ressemblance d'un rakia, éclatante comme la glace. Alors que faut-il faire? Faut-il traduire par « il y avait la ressemblance d'une étendue, une atmosphère » et au-dessus encore, après on voit le trône de Dieu, cette atmosphère serait éclatante comme la glace. Certains traduisent le cristal, littéralement c'est plutôt la glace. Il est un peu plus vraisemblable qu'il s'agisse d'une sorte de support solide, éclatant, comme du cristal, de la glace, au-dessus duquel on trouve encore le trône du Seigneur. Mais on pourrait estimer qu'il y a une petite ambiguïté. Les traductions grecques en latin, je l'ai déjà dit, elles pointent plutôt vers une construction ou un appui solide. À présent, les philologues et les interprètes, y compris la plupart des interprètes évangéliques, tentent à penser qu'il y a là, en fait, une simple référence à la conception des anciens, à la conception qu'on trouve dans toute l'Antiquité et dont discutaient encore les rabbins, la conception d'une sorte de dôme ou de voûte céleste, relativement solide. Les rabbins se demandaient même quelle était son épaisseur, qui coiffait, disons, l'atmosphère terrestre, pour faire vite. Et on aurait effectivement des parallèles dans l'imagerie qui est employée dans l'Ancien Testament. Dans la Genèse, un petit peu plus loin, durant le récit du déluge, on vous dit que les sources du grand abîme jaillirent, les écluses des cieux s'ouvrirent, que de l'eau se déverse à partir du ciel. L'image est quand même bien différente de celle de nuages qui simplement produiraient de la pluie. On est quand même manifestement dans ce genre d'imagerie. Dans le livre de Job, alors les interlocuteurs du livre de Job ne sont pas nécessairement des autorités absolues pour nous, puisque ce sont des personnages humains qui discutent. Le Seigneur intervient à la suite, mais là, je crois que c'est Job qui parle. On dit « as-tu étendu ou martelé ?» Tout le problème de la traduction. « Comme lui, c'est-à-dire comme le Seigneur, la nue, les nuées, dure comme un miroir de métal. » Vous voyez ce genre d'image, hein. Et enfin, dans le psaume 148, verset 4, on vous dit « Louez-le, cieux des cieux, et les eaux qui sont au-dessus des cieux. » C'est encore l'idée de cieux qui se retrouveraient, d'eau supérieure qui se retrouverait au-dessus des cieux, au-dessus d'une sorte d'étendue, peut-être d'un firmament, d'une voûte solide. Alors, c'est le genre de choses que je n'aimais pas penser jusqu'à ce que j'étudie ça précisément. Je me disais, bon, voilà, quand l'Écriture recoupe, parle de choses que nous connaissons d'un point de vue scientifique, elle doit nécessairement... Le Seigneur a fait en sorte que les auteurs inspirés n'utilisent pas des images qui ne soient impropres d'un point de vue scientifique. Ça ne cause aucun problème si on réalise, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est un texte qui est en prose poétique et qui a donc tout à fait le droit d'utiliser des images, des métaphores. Ça n'est pas plus choquant, et je dirais que c'est moins choquant, que quand nous disons que le ciel est bleu. Alors qu'en toute rigueur, nous devrions dire la diffusion des rayons à travers l'atmosphère laisse passer seulement les ondes, plutôt les rayons dont la longueur d'onde est suffisamment courte, etc. Bon. Si un auteur sacré écrivait aujourd'hui la Bible, devrait-on exiger du Seigneur qu'au moment où l'auteur dit « le Seigneur est grand, les cieux sont magnifiques, le ciel est bleu », ah pardon, je gomme, la diffusion des particules à travers l'atmosphère, non. On n'est pas, il ne faut vraiment pas attendre ce genre de choses. Dans la mesure où le texte, par le genre littéraire et le style qui est adopté, ne prétend en aucune manière d'écrire les choses de manière scientifique. Et je pense qu'il arrive à Lydia Yeager de dire, malgré son doctorat en physique et son doctorat en philosophie, pas de doctorat, bon, quand même quelques études en physique. Bon, alors il faut que je fasse attention à ce que je dis sur les livres ou sur Internet. Bon, alors, il arrive à certains scientifiques parmi vous, je pense, de dire à votre épouse ou à votre mari, aujourd'hui le ciel est bleu, quelle chance, surtout si vous vivez à Paris. On ne va pas pour autant dire, mais quel rétrograde, quelle honte pour des scientifiques de dire des choses comme ça. De la même manière, on ne peut reprocher à personne de dire, que le soleil se lève ou qu'il se couche. On ne va pas dire, tiens, la Lune a accompli, la Terre a accompli sa révolution autour du soleil, enfin, ou autour d'elle-même. Non, simplement, ces choses seraient gênantes si le texte biblique prétendait être une narration de type scientifique. Il y a des textes scientifiques dans l'Antiquité, en Mésopotamie, par exemple. Ça n'est pas nécessairement le cas, même probablement pas du tout. Alors maintenant, je vais vous présenter rapidement ce que l'on peut dire des textes du même genre dans l'Antiquité. Parce que toute notre difficulté, c'est que nous sommes des lecteurs modernes et que nous avons beaucoup de mal à nous mettre à la place de lecteurs de l'Antiquité. Pour les textes, ce texte a été écrit. D'abord, la Mésopotamie. Le principal texte, je vous montre une tablette, c'est ce qu'on appelle l'Enuma Elish, c'est les premiers mots en acadien, du grand texte mythologique sur la création. Il s'agit là de textes de cosmogonie, autrement dit, qui évoquent l'origine du monde, la création du monde. En réalité, ces textes-là évoquent beaucoup plus la théogonie, la création des dieux, l'apparition des dieux et parfois les luttes entre ces dieux, avec presque comme accident la création du monde. Alors, l'Enuma Elish commence par évoquer le ciel et la terre. Similitude. À l'été initial, les eaux douces, qui sont un dieu, le dieu Apsu, et les eaux salées, qui sont une déesse, Tiamat, sont encore mêlées. Il n'y a pas d'habitation, ni divine ni humaine, et les choses ne sont pas encore nommées. C'est un état initial, en quelque sorte, chaotique. Puis il y a un combat primordial entre le dieu Marduk, grand dieu de Babylone, qui va créer le monde avec le corps de la déesse Tiamat. Il va diviser en deux, l'image est celle d'un poisson asséché qu'on coupe en deux, et il va disposer donc les deux moitiés l'une en face de l'autre, et l'une des deux va servir de ciel en forme de plafond. Vous voyez l'imagerie antique d'un plafond céleste. Alors Béroz, un auteur un peu plus tardif, mais qui reprend ses textes, dira que d'une moitié de Tiamat et de l'autre, les deux moitiés du poisson, façon de parler, Marduk va créer le ciel et puis la terre. Donc on a là, si on veut comparer rapidement, voilà une image, une représentation parmi d'autres d'un firmament, ici, qui serait quelque chose de relativement dur, sur lesquels circulent les étoiles et le soleil, et puis au-dessus un océan céleste. Vous voyez la représentation? Et puis également un océan souterrain, une sorte d'abîme. Si on veut comparer rapidement la Mésopotamie et ce qu'il dit en Mésopotamie et ce qu'il dit dans la Genèse, on constate que la séparation des eaux, qui est, alors qu'à l'état initial, elles étaient mêlées, est un thème commun. On s'est demandé si l'abîme, dans tout le début de la Genèse, qui se dit Teom, serait une allusion à la déesse Tiamat, voire un emprunt au texte mésopotamien. Le consensus actuel des scientifiques, des philologues, et que ça ne peut pas être un emprunt à l'acadien pour des raisons linguistiques. Ça n'est pas un emprunt à la langue mésopotamienne. Ce qui n'empêche pas de se demander s'il pourrait y avoir une allusion très fine. On pourra en discuter après. Dans la Bible, il n'y a pas de combat primordial. On a beaucoup discuté et glosé sur la possibilité d'un combat, l'idée que les ténèbres, la terre qui est tohu-bohu, vide, informée vide, évoquerait un état qui résulterait d'un combat entre le Seigneur et un... Il n'y a rien de tout ça, et à présent, ces thèses sont quasiment totalement abandonnées. C'était un excès de comparatisme, en fait. Un thème commun est quand même celle, probablement, de la voûte céleste et des eaux supérieures. Si je passe maintenant à l'Égypte, alors il y a une série de textes, des textes des pyramides, des textes des sarcophages, j'aurais pu traduire, le livre des morts, et puis la pierre de Chabaka. Dans ces textes, on trouve plusieurs cosmogonies concurrentes, notamment dans les villes de Hermopolis et de Memphis. C'était des grands centres religieux. Je passe vite pour ne pas dépasser le temps. Voilà une image de texte de pyramide, une image de sarcophage, et puis à l'intérieur de ce sarcophage, ici vous voyez des écritures. Tout ça a été traduit, ça couvre des volumes et des volumes. Si l'on veut résumer ces cosmogonies, on préfère le tableau suivant, en mettant quand il y a des lignes communes, ce qui est commun aux différentes grandes théories égyptiennes, et puis de part et d'autre, ce qui concerne plutôt les textes des pyramides, les textes des sarcophages, et à droite, la pierre de Chabak. La cosmogonie de Hermopolis à gauche, la cosmogonie de Memphis à droite. Alors, regardons brièvement les étapes et vous penserez, je pense, automatiquement à des parallèles avec la Bible. La version la plus simple dit qu'à l'état initial, il y avait deux dieux. Le dieu Nun, qui représente une profonde masse d'eau chaotique sans vie. Et puis Amun, le vent qui se meut sur les eaux. Et dans la version plus élaborée, on a quatre dieux du chaos. On rajoute Eou, qui en fait désigne une sorte d'infinité ou d'immensité. Et puis Keku, qui est l'obscurité infinie. On a beaucoup discuté pour savoir, et il est possible qu'il y ait un écho dans le second verset de la Genèse à cela, puisqu'on a quatre éléments ici, donc une profonde masse d'eau sans vie qu'on a souvent comparée à l'abîme, le vent qui se meut sur les eaux, il y aura un écho dans la présence de l'esprit qui se meut sur les eaux, l'esprit de Dieu. L'obscurité infinie correspondrait aux ténèbres. Et puis, Eou, alors c'est discuté, c'est un peu compliqué, pourrait correspondre à Tohu Bohu, informe et vide. Une sorte d'immensité désertique, parce que Tohu Bohu, en fait, je crois que c'est plutôt Tohu qui correspond à l'idée d'un désert. Une grande étendue désertique dans laquelle il n'y a rien. Il est donc tout à fait possible qu'il y ait un écho dans le second verset de la Genèse, du premier chapitre de la Genèse, à ces quatre dieux du chaos, mais un écho tellement fin qu'on peut tout à fait passer à côté, comme on le fait habituellement, et que rien de mythologique ne subsiste. Ensuite, on a la création de la lumière, en premier, avant même les astres, qui émerge du sein des eaux, et la pensée et la parole du dieu Ptah, à Memphis, créent la lumière, ce qui est assez significatif. C'est comme dans la Genèse. Puis on a l'émergence d'une colline primordiale, de la même manière que la terre sèche émerge au milieu des eaux, dans la Genèse. Et alors là, on crée le dieu du ciel qui va séparer une déesse et un dieu. On aura l'océan céleste et la terre. Alors, je vais vous montrer une image, ça sera beaucoup plus clair. J'espère, parce que c'est l'iconographie égyptienne antique. Vous avez ici le dieu du ciel qui maintient le dieu de l'océan céleste, si vous voulez. Et ici, c'est largement attesté, hein. Et ici, le dieu de la terre. Initialement, nous disent les textes égyptiens, la terre et le ciel étaient mariés et ils s'enlaçaient. Et le dieu Chou, le dieu de l'air, si vous voulez, les a séparés et maintient la séparation. Évidemment, eux, ils sont penchés l'un vers l'autre, ils aimeraient se faire des câlins, etc. Et on trouve ça dans un certain nombre... Voilà encore un exemple. Dans un certain nombre d'images, et alors dans ce décalque d'une image, on voit qu'au-dessus, il y a une barque comme ça, où je ne sais plus quel dieu, se promène sur les eaux supérieures. Vous voyez quelle était l'imagerie antique, hein. Donc toujours le dieu du ciel, le dieu qui le supporte, l'air, et puis la terre ici. Et l'océan par-dessus. Je reviens un peu en arrière. Pardon. C'est un peu là. Enfin, l'humanité est créée accidentellement par les larmes d'un dieu. Le soleil est créé pour gouverner le monde, ce qui fait écho à la création des astres pour gouverner le monde. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il est créé en image du dieu Ré, du soleil. Enfin, on a la végétation, et puis le repos du dieu Ptah. Le dieu Ptah se repose de son œuvre. On a beaucoup plus de parallèles en Égypte qu'en Mésopotamie. Et ça, c'est frappant. En général, les commentaires bibliques n'en parlent pas parce que les exégètes se concentrent sur la Mésopotamie. Et effectivement, le reste de la Genèse fait beaucoup plus écho à la Mésopotamie. En tout cas, les chapitres 2 à 11, donc 4 à 11 surtout. Alors, si on veut dresser donc une comparaison rapide, on a peut-être une allusion aux quatre dieux du chaos au début de la Genèse, l'esprit, l'abîme, la terre qui est Tohu Bohu et les ténèbres. La création de la lumière en premier, c'est également un parallèle frappant. La création par la parole, l'émergence de la terre entre les eaux, la séparation des eaux, et alors de la terre, du ciel, bon, cette notion de séparation, avec une sorte de voûte céleste, et puis le repos de la divinité à la fin. Si on fait un bilan général de tout cela, il y a des allusions possibles, sinon probables, dans le texte de la Genèse aux cosmogonies avoisinantes de Mésopotamie et d'Égypte. Mais s'il y a une telle reprise, elle est très fortement polémique. En effet, il y a des différences qui sont choquantes. Je ne dis pas des différences surprenantes, étonnantes, des différences choquantes. Il est absolument choquant dans l'Antiquité de décrire la création de la manière dont la Genèse le fait. Il est inimaginable de parler d'un seul Dieu. Toutes les composantes de la création provenaient des dieux dans l'Orient ancien. Ici, on a un seul Dieu qui ne se confond avec aucun des éléments de la création. C'est complètement subversif. Pour vous donner une idée du choc que cela pouvait représenter pour des Égyptiens, des Mésopotamiens, ou même des Cananéens, il faut vous imaginer, vous, scientifiques, ou personnes qui sont intéressées, qui ont certaines conceptions scientifiques sur le monde, il faut vous imaginer réintroduire le polythéisme de votre conception du monde. Il faut que vous imaginiez, voilà, le soleil, c'est un dieu. Un dieu auquel on composait des cantiques, on en a un certain nombre. La lune était une déesse ou un dieu, enfin, je simplifie. Et on écrivait des cantiques pour ces dieux-là. Les astres, la terre, etc. Tout était imprégné de divinité. Donc, si vous voulez avoir le même effet que la Genèse faisait sur les anciens, sur vous, il faut imaginer introduire le polythéisme et les dieux partout dans votre conception du monde. Je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez faire. Mais c'est tout aussi choquant le travail qu'a fait l'auteur de la Genèse. Et l'aspect principal de tout cela, c'est la question du rapport de Dieu au monde. Dieu ne fait pas partie du monde. Pour nous, c'est banal, Dieu distingue le monde. Dans l'Orient ancien, à l'époque de l'écriture et de l'usage premier du récit de la Genèse, c'est inimaginable. C'est même pas une idée dont on pourrait débattre, c'est inimaginable. Et c'est une véritable révolution copernicienne, si vous voulez, qu'a accompli l'auteur de la Genèse en présentant un Dieu qui est distinct du monde. Alors maintenant, je vais devoir passer vite sur la question de l'interprétation des jours. On compte 4 interprétations principales, il y en a d'autres en fait. La première interprétation, qui pourrait intéresser le plus les scientifiques sans doute, est une interprétation dite concordiste, qui cherche à trouver un parallèle entre les jours de la Genèse et puis les étapes qu'on peut discerner de l'évolution, la création, enfin, l'évolution du monde. Alors, pour cela, on plaide qu'un jour peut désigner parfois dans la Bible une longue durée. En tout cas, dans les formules « en ce jour-là », on vise parfois toute une époque. La difficulté avec cette interprétation, alors, la première difficulté que j'exprimerai en tant qu'exégète, c'est que c'est complètement hors sujet de chercher à trouver dans des textes antiques ce que nous savons aujourd'hui. Mais pourquoi pas? On pourrait remarquer des concordances. Et donc, il faut bien noter que ça manque le propos du texte, qui est un propos concernant le Seigneur et le rapport de Dieu au monde. Ici, le mot « jour » désigne manifestement un jour habituel, puisqu'on évoque un matin et un soir. Quand on invoque les passages qui prennent le mot « jour » pour une longue durée, on oublie souvent de préciser qu'il s'agit d'expressions idiomatiques, donc typiques de l'hébreu, et comme « en ce jour-là », mais qui ne correspondent pas à des usages du mot « jour » isolé. Donc il faut faire très attention à cela. Ensuite, si on cherche vraiment à faire un concordisme avec ce qu'on dit au niveau scientifique, on aura de grandes difficultés, je pense, parce que la création du soleil et des étoiles est faite après celle de la terre et de la végétation, ce qui est quand même assez difficile à faire concorder avec le schéma habituel en science. Les poissons arrivent après les arbres, les insectes après les oiseaux. Toutes sortes de choses qui, je pense, ne concordent pas avec le développement habituel dans les théories scientifiques. Cette interprétation est maintenant largement abandonnée par à peu près tous les biblistes. Une autre interprétation, dite restitutionniste, suppose qu'il y a eu, entre le premier et le second verset de la Genèse, une sorte de la chute de Satan en général, ou une période chaotique, qu'auparavant il y avait toute la période des dinosaures, etc. Et ensuite, dans la semaine, on a une œuvre de recréation, réhabilitation du monde par le Seigneur. Vous voyez déjà que là, on introduit des choses qui ne sont pas dans l'Écriture. il n'y a aucun saut entre le premier et le second verset dans le texte de la Genèse. Et aussi bien la grammaire, la syntaxe indiquent qu'il n'y a pas de pont, de saut entre les deux premiers versets. Ensuite, cette interprétation suppose que quand on parle d'une terre informe et vide, tohu bohu, on évoque le chaos. Or, si on regarde toutes les occurrences de ces mots, informe et vide, tohu bohu, cela désigne simplement des zones, des grandes étendues désertiques, vides, inoccupées, improductives. Ce qui en soi n'est pas péjoratif. Moi, j'aime beaucoup le désert. Voilà, on peut tout à fait aimer cela. Simplement, quand on dit qu'on va transformer une zone habitée dans les oracles de jugement en tohu bohu, c'est en zone désertique, etc., évidemment, c'est négatif. Mais en soi-même, ça n'a rien de négatif. Donc cette interprétation est maintenant très largement abandonnée. L'interprétation littérale, qui prend les jours comme des jours de 24 heures, est encore d'actualité, puisque beaucoup la maintiennent, en particulier aux États-Unis, et soutiennent qu'il faut prendre le texte tel qu'il est, et que si on ne le fait pas, on trahit le texte biblique. En réalité, nous avons déjà vu que ce texte est semi-poétique, c'est de la prose poétique, et que dans l'écriture, pas d'après ce que nous savons a priori, mais d'après l'usage de l'écriture, les textes poétiques utilisent souvent un langage figuratif. Donc la contrainte que certains s'imposent de lire littéralement un texte biblique ne correspond absolument pas au témoignage de l'écriture. Il y a des textes à prendre littéralement et des textes à prendre de manière figurative. Cela pose également la question de la présence de jours de 24 heures avant même la création du soleil. Il faut trouver des solutions alambiquées pour expliquer que les premiers jours duraient quand même 24 heures. Cela surimpose enfin une explication à la présence de 7 jours, à celle d'une image assez claire d'un Dieu qui travaille pendant une semaine. Pas pendant 35 heures, mais pendant une semaine normale. C'est une image qu'on a simplement, probablement, utilisée pour le Seigneur, ce qu'on appelle un anthropomorphisme. On parle de Dieu comme d'un homme qui travaille, un artisan, en 7 jours. Une fois qu'on a constaté l'usage de cette image, il n'est pas besoin d'aller chercher une explication en termes de chronologie dans ces 7 jours. Et enfin, si on prenait le texte littéralement, je pense qu'on serait plus ou moins obligé de croire en l'existence d'une voûte céleste solide, avec des eaux supérieures. Alors, l'interprétation qui est maintenant majoritaire chez les exégètes, alors, si vous voulez plus d'explications, vous irez voir le livre qui est en vente en bas, je continue la publicité, puisque je vois que ça se fait, le livre de Henri Blocher, qui fera un exposé cet après-midi, « Révélation des origines », qui a été traduit en anglais et qui est maintenant probablement le représentant le plus typique de cette interprétation, qui a influencé beaucoup de gens, même aux États-Unis. L'interprétation littéraire estime que le premier chapitre de la Genèse fait usage de formes poétiques et littéraires, d'un arrangement artistique du texte, comme nous l'avons vu par de multiples indices, pour présenter de manière picturale, comme dans un tableau, l'œuvre de création du Seigneur, sans prétendre donner une chronologie de la façon dont, une chronologie des événements réels de la création. On a une sorte de cadre littéraire où on expose à la fois les espaces d'habitation que le Seigneur a créés en séparant les choses, en distinguant, et puis ensuite en les habitants, les occupants, que sont les mammifères, etc., qui vont occuper ces habitations. Cette théorie a l'avantage d'être largement suffisante pour expliquer la présence d'une semaine, parce que simplement c'est un anthropomorphisme comme on en trouve beaucoup dans l'Écriture et dans le reste de la Genèse. Le Seigneur descend, le Seigneur parle, le Seigneur... Alors il n'a pas de bouche, et a priori c'est un esprit. On trouve même l'image dans l'Exode de Dieu qui reprit haleine le septième jour. On n'est pas obligé d'inter... Enfin, il est très difficile d'interpréter ça de manière littérale, s'agissant du Seigneur qui est un esprit. Ça indique très fortement qu'il s'agit là d'un anthropomorphisme, comme on en trouve partout dans la Genèse, et même immédiatement après, dans le récit d'Éden. Alors pour finir, parce que je veux déjà dépasser l'heure, un mot sur la création de l'homme. De la même manière que le récit de la Genèse réagit très probablement de manière polémique aux cosmogonies qui existaient, en ce qui concerne la création du monde, etc. Pour ce qui est de la création de l'homme, on trouve beaucoup de parallèles dans les textes mésopotamiens et égyptiens. Alors, je ne vais pas tout lire pour pas plus de temps, mais on trouve très fréquemment l'image de l'homme qui est créé à partir de l'argile, et même l'image d'un dieu qui crée l'homme. On utilise l'image d'un potier pour fabriquer l'homme à partir de l'argile. Et on trouve également la notion de la création de l'homme, puis de la femme. On a même une image très frappante en Égypte, c'est la dernière ligne. Le dieu créateur a procuré le souffle de vie à leurs narines, car ils sont son portrait, on pense à l'image de Dieu, création en image, et il est issu de sa chair. Autrement dit, quand le récit, quand le second chapitre de la Genèse nous parle de la création de l'homme qui est façonné, c'est le mot façonné, hein, c'est le même mot que pour le travail d'un potier à partir de la poussière de la terre, en fait, on a là simplement ce qu'on appelle un topos, un lieu commun, une image de l'Orient ancien qu'on reprend de manière sans doute poétique pour parler de la création de l'homme. Il y a probablement la notion de l'origine terrestre de l'homme qui est mise en valeur, mais à moins de supposer que l'ensemble de l'Orient ancien a été illuminé par une révélation divine, il n'y a pas de raison de supposer que la création à partir de l'argile, de la terre, de la poussière, soit une description littérale de la manière dont le Seigneur a créé l'homme. Alors si on fait le bilan final, en conclusion, je pense que les textes du début de la Genèse ont été écrits de manière absolument remarquable, littérairement, etc. Avec une telle finesse qu'on peut aussi bien les lire de manière simple, sans voir aucune allusion aux textes de l'Orient ancien, que si l'on se replonge dans l'ambiance intellectuelle, l'univers conceptuel de l'Antiquité, rempli d'allusions très fines, complètement démythologisées, sans aucune reprise des divinités, etc., à ces textes-là, afin de montrer que le Seigneur, le Dieu créateur, est totalement distinct du monde, qu'il a créé à la manière d'un artisan, de manière ordonnée. Et c'est pourquoi je pense que le thème principal de ces chapitres-là n'est pas, n'est absolument pas, la création du monde, le modus operandi du Seigneur, mais réellement le rôle du Dieu créateur. Voilà, je vous remercie de votre attention, Clément. Le fait que j'ai dépassé l'heure. Je laisse la place pour la suite.